Bienvenue aujourd'hui dans Union et Désunion, l'émission qui parle d'Europe, présentée par Ulysse Gounel et Nathan Dobbe van Troostwijk. Bienvenue dans la nouvelle année. Elle commence bien, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours là pour vous parler d'Europe.
Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Nathan qui, comme à l'accoutumée, va démonter une idée reçue sur l'Europe, très répandue sur les réseaux sociaux.
Et oui, et l'origine est un peu personnelle parce que, il y a quelque temps, sur les réseaux, j'étais en train de discuter des menaces américaines sur le Groenland et de la nécessité d'une Europe qui assume enfin son pouvoir. Et sous l'un de mes messages, il y avait un commentaire plutôt typique. Je vous le lis, je cite. L'UE se comporte avec les États membres comme un empire avec ses vassaux. Les intérêts européens n'existent pas, et tout ce qu'on donnera à ces pourritures du Quatrième Reich, que sont les commissaires européens, se retournera contre nous. Alors, je laisse descendre ces informations, et bien entendu, vous pouvez vous en douter, je n'ai absolument pas répondu. Car bon, quand on parle d'Europe et qu'une comparaison avec le Quatrième Reich est faite, la discussion libre et réfléchie s'arrête assez rapidement. Mais aujourd'hui, dans cette chronique, je tenais quand même à répondre au sous-texte de ce message. Sous-texte qui est que l'Europe soumettrait ses États membres, qu'elle détruirait ses citoyens et qu'elle serait une machine à écraser les nations au nom d'un, entre guillemets, pouvoir central. Et ce sujet-là est globalement l'un des favoris des eurosceptiques. Alors bon, déconstruisons. Première erreur, croire que l'Union européenne est un empire soumettant ses vassaux. En réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est l'UE qui est soumise aux États membres. Oui, vous avez bien entendu, et je vais vous le démontrer. L'Union européenne agit sur la base du principe de subsidiarité. Bon, c'est un mot compliqué, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que elle n'agit que lorsque les États membres ne peuvent pas agir efficacement seuls. Et encore, c'est seulement dans les compétences qui lui sont attribuées par les traités. Traités qui sont signés par qui? Par les États membres. Et ratifiés par qui? Par leur parlement, élu directement par les peuples européens. Ensuite, les fameuses lois et régulations européennes qui attirent tant d'attaques. Dans les domaines où l'Union européenne a les compétences d'agir, c'est la Commission qui propose et négocie les textes, certes. Mais pour qu'ils passent, il faut deux votes. Le premier, c'est le vote du Conseil de l'Union européenne qui regroupe qui? Les ministres et ambassadeurs de tous les États membres. Et le deuxième vote, c'est le Parlement européen pour lequel nous, les citoyens, votons directement tous les 5 ans. Alors bon, si on regarde dans les faits, l'Union européenne est un empire où les vassaux choisissent eux-mêmes les lois, nomment les empereurs et peuvent dire à tout moment « Non, on arrête ». Et d'ailleurs, si les États membres se sentent comme des vassaux, pourquoi ne quittent-ils pas l'Union? La réponse, les Anglais l'ont fait et ils le regrettent amèrement. Le Brexit a coûté aux citoyens britanniques, selon un rapport de Cambridge Econometrics, 162,87 milliards d'euros, soit plus que le bénéfice français de 2024. Cela représente une perte de croissance entre 2 et 8% du PIB britannique. C'est aussi lié au recul des investissements internationaux de 11% et à la baisse de la production économique de 6% par rapport à ce qui aurait été le cas si le Royaume-Uni avait été resté dans l'UE. Et ce ne sont que les conséquences économiques à court terme. Mais je pense que vous pouvez vous en douter de ce que ça a coûté aux contribuables britanniques. Bon, maintenant parlons de ces fameuses pourritures de commissaires européens qui dirigent le mythe du Quatrième Reich. Là encore, regardons les faits et la réalité. Qui choisit les commissaires et la présidente de la Commission? Suspense? Eh bien, ce sont les États membres. Oui, les mêmes États membres apparemment vassalisés aux mêmes commissaires. De plus, leur nomination est validée par le Parlement européen, donc par nous, les citoyens. Donc, selon cette logique, les États membres choisiraient délibérément des personnes qui leur feraient du mal, comme si on se nommait soi-même des bourreaux. C'est absurde. Et puis, je tiens à être très clair à ceux qui comparent l'Union européenne à l'URSS ou au Reich nazi. l'Union européenne n'a aucun pouvoir militaire, aucun pouvoir fiscal et aucun pouvoir policier. On est très loin de la Gestapo, de la Stasi qui toque aux portes, pas de SS ou de KGB qui créent des camps de concentration. Il y a juste des fonctionnaires qui écrivent des règles sur les pesticides, les émissions de CO2 ou les droits des consommateurs. J'avoue, c'est peut-être ennuyeux, mais ce n'est pas un régime totalitaire. Et donc, les intérêts européens n'existent pas. La réponse est simple. Ils existent et ils rapportent. Prenons quelques exemples. La libre circulation des biens, services, capitaux et personnes permettent à l'Europe d'être le premier marché mondial. La politique agricole commune, qui est certes en crise en ce moment, a nourri l'Europe après-guerre et continue de soutenir nos agriculteurs. La protection des consommateurs évite qu'on devienne aussi intoxiqué que les Américains. Ou encore les fonds structurels qui financent des projets locaux. Par exemple, petite anecdote personnelle, je me souviens au lycée, tous les élèves de la région avaient reçu des ordinateurs portables gratuits grâce aux fonds structurels européens. Donc, en conclusion, l'Union européenne est très loin d'un empire. Il s'agit bien d'une organisation internationale, certes fragile, lente, mais surtout utile. Mais cela démontre l'un des vrais problèmes européens. C'est le manque d'éducation sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est la facilité de croire que tout ce qui vient de là-bas est mauvais sans jamais chercher à comprendre. Et pourtant, l'Europe a besoin de plus de pouvoir, pas pour dominer, mais pour défendre, pour protéger, pour agir face aux États-Unis, à la Chine, à la Russie et face aux ennemis de notre souveraineté qui nous attaquent de l'intérieur. Au lieu de maudire les commissaires du Quatrième Reich, demandons que l'Union européenne devienne plus forte, plus efficace, mais aussi plus démocratique, plus transparente, plus proche de nous, les citoyens. Parce que l'Europe, ce n'est pas un empire, c'est une chance. Et on a encore le temps de la sauver.
Merci beaucoup Nathan pour cette chronique très forte face à des propos tout aussi forts. Et c'est clair que l'Europe est le strict opposé des systèmes politiques de l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, de la Russie avant 1991, et même des empires qui l'entourent aujourd'hui. Tu as mentionné la Russie, la Chine. L'Union européenne est vraiment à l'opposé de ces régimes autoritaires, et elle fonctionne grâce à la démocratie. D'ailleurs, une des grandes idées reçues sur l'Europe serait qu'elle est complètement antidémocratique. Elle n'est pas assez, et tu l'as bien dit, c'est clair, il y a des choses à améliorer, mais elle a un fonctionnement très démocratique. Tous les citoyens votent pour des députés européens qui vont défendre nos intérêts, et c'est nos chefs d'État et de gouvernement que nous avons élus dans nos pays qui vont définir les grandes orientations que la Commission européenne, validée par les chefs d'État et par le Parlement européen, va mettre en œuvre. Donc c'est simplement une alliance démocratique de pays démocratiques.
Oui, exactement. Et effectivement, la critique démocratique de l'Union européenne fonctionne seulement si on oublie qui empêche le développement démocratique de l'Union européenne. Et qui empêche ce fonctionnement démocratique? Ce sont les États membres qui désirent avoir une négociation qui soit privée, qui soit derrière les portes, qui soit secrète, éviter que les citoyens l'apprennent, qui préfèrent que le droit à l'initiative des lois qui appartient à la Commission soit contrôlé indirectement par les États membres et non pas par le Parlement européen. Et même si on va plus loin que ça, regardons les personnes d'extrême droite, les politiciens eurosceptiques, qui disent que l'Union européenne, qui sont la base de cette critique même antidémocratique, eux qui disent défendre la souveraineté populaire, la voix du peuple, bah pourquoi ils ne sont pas les premiers à dire que par exemple, le Parlement européen devrait avoir l'initiative des lois. Pourquoi ils ne sont pas les premiers à appeler plus de démocratie en Europe et moins de contrôle des États membres, ou en tout cas un contrôle qui soit ouvert et pas caché dans des discussions à porte close entre les ambassadeurs?
Oui, et d'ailleurs, c'est ces mêmes autonommés patriotes pour l'Europe qui en fait défendent tout l'inverse de ce que devrait défendre un patriote. Un vrai patriote, c'est celui qui, dans la situation géopolitique actuelle, se rend compte que la Russie cherche à attaquer notre continent, la Chine cherche à le contrôler commercialement, les États-Unis cherchent à l'attaquer politiquement et utilisent les outils commerciaux pour servir leur politique. On le voit notamment avec le Groenland, dont on va sûrement reparler après. Mais un vrai patriote, c'est celui qui constate tout cela et qui se rend compte du fait que nous avons besoin de nous unir pour pouvoir faire face à tous ces dangers et tenir tête ensemble. Et voilà, à 27 pays, si on était tous fragmentés, on n'aurait aucun poids sur la scène internationale. Et c'est seulement parce que nous sommes, d'une part, un marché de 500 millions de consommateurs et d'autre part, une zone démocratique avancée et qui a des intérêts clairs que nous pouvons nous permettre de tenir tête face à tous ces empires et à survivre tout simplement dans le monde géopolitique tel que nous le vivons.
Oui, exactement. Et même pour nous les consommateurs, pour nous les citoyens, même juste pour nous les gens qui payons les impôts, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un fonctionnement qui soit européen. Et cela, que ce soit pour notre souveraineté, pour la défense ou pour la sécurité. Regardez, Frontex vient d'annoncer qu'il y a une baisse de l'immigration aux frontières. Est-ce que si c'est un pays seul qui le fait, il y aurait encore cette baisse-là? On en regarde les Royaume-Uni, l'immigration a augmenté après le Brexit. Maintenant, regardons sur la défense. On est tous en train de dépenser des sommes incroyables pour augmenter nos armées nationales. Si, sans rajouter cette somme d'argent-là, juste en gardant la somme qu'on avait avant l'augmentation de nos budgets, on mettait juste toutes nos armées ensemble, on serait la deuxième armée mondiale. La deuxième. Ensuite, si on crée des règles simples, des règles compréhensives et qui fonctionnent au niveau de toute l'Union européenne, notamment pour la création des entreprises, pour le paiement de nos agriculteurs, pour l'aide aux foyers, l'aide aux ménages, si on commence à créer des règles qui sont unitaires, qui font en sorte qu'il y ait une stabilité sur le continent, il y aura une croissance économique, il y aura des puissances numériques, des puissances industrielles européennes qui se créeront aussi. La solution pour que nous devenions une force pour mettre fin à notre déclassement et à notre la fin de l'Europe, c'est de faire en sorte d'unir nos moyens. C'est la seule solution.
C'est tout un programme que tu nous détailles et je pense que c'est une très bonne transition pour parler de l'actualité qui traversera l'Europe en 2026 et ça sera le sujet de cette chronique pour cette toute première émission de 2026. En 2026, donc, on aura de nombreuses élections à travers notre continent et des événements qui façonneront l'avenir de l'Europe. Le tout premier événement assez important a en fait déjà eu lieu, et c'était le 1er janvier de cette année, l'extension de la zone euro. La Bulgarie a en effet rejoint notre zone monétaire en adoptant l'euro comme monnaie à la place du lev bulgare. C'est un signe fort d'unité qui montre que l'Union européenne est encore attractive, et ça démontre surtout la santé des finances publiques bulgares avec une dette publique qui ne représente que 25,1% de son PIB, bien loin des 117% de la France. De même, depuis le 1er janvier, le Conseil de l'Union européenne qui rassemble les ministres européens est présidé par Chypre dans le cadre de sa présidence tournante, et à partir du 1er juillet, ce sera l'Irlande qui prendra le relais. Et au cours de cette année, on aura de nombreuses élections. Élections municipales en France, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 1er février. Élections présidentielles en Estonie, élections législatives en Lettonie, au Danemark, élections dans les Länder allemands du Bade-Württemberg, de Rhénanie-Palatinat, Sachsen-Anhalt, Berlin et Mecklembourg-Poméranie occidentale. Et deux élections en particulier seront à scruter. Les élections législatives hongroises en avril et les élections locales au Royaume-Uni en mai. En Hongrie, si on en croit les sondages, ce pourrait être une victoire historique du parti d'opposition Respect et Liberté de Péter Maghiar. Depuis 2010, le populiste russophile et eurosceptique Viktor Orban tient le pouvoir d'une main de fer. Il a transformé son pays en régime illibéral et il attaque ouvertement les libertés publiques. En 2026, il est possible que ça change, et ce serait un très grand signe d'espoir pour le projet européen, et également pour le soutien à la défense de l'Ukraine que Orban continue à bloquer. Au Royaume-Uni, par contre, les élections locales sont assez inquiétantes, à l'inverse de la Hongrie. En effet, notre voisin d'outre-Manche semble s'apprêter à élire massivement le parti d'extrême droite Reform UK, dirigé par Nigel Farage. Nigel Farage était celui qui avait soutenu le Brexit et qui semble être le prochain grand gagnant des élections parlementaires qui auront lieu au plus tard en 2029. Les sondages annoncent pour l'instant un raz-de-marée en faveur de ce parti populiste et un score historiquement bas pour le parti travailliste actuellement au pouvoir. 2026, enfin, marquera le 4e anniversaire de l'invasion totale de l'Ukraine en 2022, montrant la résilience et la défense déterminée du peuple ukrainien. Bref, ce sera une année chargée et charnière, également face aux attaques incessantes de Donald Trump, qui lui aussi devra faire face à des élections cruciales en novembre. Est-ce que d'ici là, l'Europe sera capable de reprendre son destin en main? C'est ce que nous allons voir.
Merci, c'est effectivement une très bonne question et je dois avouer que dans la situation actuelle, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Avec les dirigeants qui se tapent dessus, avec l'extrême droite qui monte partout et avec tous les blocages à droite, à gauche et surtout notre grande force européenne qui envoie, c'était combien ? C'était une vingtaine de soldats, tout pays confondu ? 15 soldats au Groenland. Je pense que pour l'instant, nous sommes encore très loin de prendre notre destin en main.
Il y avait, je crois, un soldat allemand et qui est déjà retourné en Allemagne depuis. C'était certes un simple exercice d'exploration, mais ça montre bien que l'Europe n'est pas capable pour l'instant de vraiment tenir tête. Malgré les messages politiques qui sont envoyés et notamment le fait que depuis que Donald Trump a annoncé mettre en œuvre des droits de douane contre tous les pays qui s'opposent à l'annexion du Groenland, l'Union européenne a envoyé un message relativement fort, notamment mené par la France, et la possibilité de mise en œuvre de droits de douane envers les États-Unis pour répondre justement à ce sujet, mais c'est clair que actuellement, si les États-Unis cherchaient à envahir militairement le Groenland, je ne suis pas sûr que l'Union européenne serait capable de lui tenir tête.
Ça, c'est sûr. La défense que là on a actuellement en Europe vient encore des États-Unis, et ce sont les Républicains qui essayent d'envoyer un signe assez clair à Trump de dire que une attaque militaire de Groenland signifierait la fin de son mandat. Mais est-ce que ça va être assez pour l'en empêcher? Qui sait? Cependant, ce que je tiens quand même à noter, c'est que les dirigeants européens semblent regarder l'Europe selon le point de vue, en fait, des adversaires de l'Europe, c'est-à-dire selon le point de vue des populistes. Ils pensent que l'Europe est faible et fragmentée et il y a une très faible présence auprès de la population. Mais les sondages disent le contraire. L'Institut Montaigne en France, qui est un institut de sondage qui est très sérieux, montre que 67% des Français se disent favorables au principe d'une politique de sécurité et de défense commune dans l'Union européenne. L'Eurobaromètre, qui est aussi un institut de sondage qui est extrêmement sérieux, montre que 73% des Européens considèrent que l'adhésion de leur pays à l'Union européenne a eu un impact bénéfique. Et quand il s'agit de hiérarchiser les grands défis de l'Europe, la défense et la sécurité arrivent en tête avec 37% et juste derrière la compétitivité économique et l'industrie avec 32%. Ça montre qu'il y a énormément de citoyens qui sont pour l'Union européenne, qui sont pour le projet européen, qui sont pour la défense européenne. Sauf que quelle est la différence entre cette majorité de citoyens et la minorité anti-européenne? C'est que la minorité anti-européenne crie dans les rues, bloque les ronds-points, descend et crie sur les réseaux sociaux avec l'aide des bots russes, bien entendu. Le message avant, je suis à 50% sûr que c'est un bot russe. Et que nous, les Européens, nous restons sagement à la maison en suivant les principes de la démocratie, sans dire haut et fort que nous soutenons l'Europe.
Oui, c'est bien ça le problème, et c'est souvent d'ailleurs le cas en démocratie. La disruptivité est bien plus visible que la majorité silencieuse. Et sur la question du rapport entre les États-Unis et l'Europe, j'ai lu un papier du Grand Continent très récemment que je trouve assez intéressant, sur le rapport entre la Chine et l'Europe, parce qu'en fait la Chine, actuellement, voit un intérêt à ce que les États-Unis restent en Europe. La Russie, elle, c'est clair qu'elle ne le veut pas, elle veut pouvoir créer sa sphère d'influence autour de l'Europe, c'est pas pour rien qu'elle a attaqué l'Ukraine, et qu'elle semblerait prête d'ailleurs à attaquer les États baltes. Mais la Chine, elle, est intéressée à ce que les États-Unis restent puissants en Europe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les forces militaires qui sont présentes en Europe ne peuvent pas être présentes pour défendre Taïwan. Et que donc la Chine a tout intérêt à ce que les États-Unis ne viennent pas trop dans le Pacifique, ne viennent pas trop l'embêter dans la mer de Chine, et ne viennent pas trop l'embêter dans sa volonté d'annexer l'île de Taïwan, qui donc, pour le rappeler, est indépendante depuis des décennies, mais que la Chine considère toujours comme faisant partie intégrante de son territoire.
Et je pense même plus que ça. Une Europe avec les États-Unis, c'est une Europe qui reste toujours divisée parce que nous appuyons sur l'allié américain. Et c'est aussi une Europe qui doit respecter les règles de l'allié américain et donc éviter de briser les monopoles d'Internet, les monopoles numériques, les monopoles d'industrie, ce qui fait qu'aucune grande puissance industrielle ou numérique européenne peut émerger. Alors même que la plupart des ingénieurs, la plupart des chercheurs, les gens qui font les entreprises aux États-Unis sont européens, ils sortent de nos universités, ils sortent de nos établissements, et ils vont aux États-Unis juste après. Ça aussi, c'est une question à se poser de pourquoi ils vont là-bas, mais c'est une autre question. Donc, la Chine, en faisant en sorte que les États-Unis restent, c'est en fait faire en sorte que l'Europe reste un vassal des États-Unis, et ça arrange la Chine.
Et peut-être pour se poser des questions sur les perspectives de l'Europe sur la suite, te demander quel serait le souhait que tu aurais pour l'Europe, pour l'Union européenne et ses dirigeants. Sur cette année 2026, qu'est-ce que tu leur souhaites comme bonne résolution?
Mon souhait, il est assez simple. C'est qu'on se réveille, qu'on sorte du rêve, qu'on commence à créer un véritable projet européen, qu'on sorte notre vassalité et qu'on devienne une puissance. Ça, c'est mon rêve pour l'Europe en 2026. Et toi, Ulysse, c'est quoi ton rêve?
Écoute, je pense qu'il n'est pas très différent. Ça serait effectivement que l'Europe commence à être responsable et qu'elle cherche à agir pour prendre en main son futur. On a eu un rapport qui fait beaucoup parler de lui dans les sphères européennes, il s'appelle le rapport Draghi, qui est sorti il y a déjà un an, je crois, un peu plus d'un an, et seulement 14% a été mis en œuvre, alors que c'est vraiment le rapport qui nous permet de savoir comment améliorer le futur de l'Europe, comment la rendre souveraine, comment la rendre indépendante, notamment sur le plan industriel, énergétique, mais aussi politique. Et je trouve ça effrayant, dans un certain sens, que nos dirigeants soient autant conscients des besoins qu'a l'Europe pour être améliorée dans le futur, mais qu'elle n'agisse pas tout simplement par peur de derrière perdre des élections, peur de la vague eurosceptique, mais justement, si la classe politique n'agit pas en faveur de l'Europe, l'état de l'Europe va continuer à se dégrader, et donc ça va seulement nourrir les eurosceptiques qui existent déjà.
Tout à fait d'accord, c'est un peu un des problèmes de la démocratie. Les dirigeants ont peur de leurs élections 5 ans plus tard. Ça, plus le fait que, comme nous en avons parlé plus tôt, il y a cette majorité silencieuse. La majorité silencieuse est pro-européenne. Mais tant que cette majorité ne sort pas dans la rue et montre qu'elle est pro-européenne, eh bien, nous écouterons seulement les risques de l'extrême droite, et surtout, cette extrême droite qui va infecter petit à petit la majorité silencieuse. C'est exactement ça le problème, et c'est ce contre quoi nous essayons de lutter à notre humble niveau avec cette émission de radio, et ce pourquoi je pense qu'il est très important que les mouvements européens commencent à descendre dans la rue et à montrer qu'ils sont là, qu'ils sont forts, et qu'ils veulent un meilleur avenir et un avenir de puissance.
Et un avenir réenchanté aussi dans un certain sens. Tu disais avant, quand tu démontais ce message haineux, que l'Europe était au fond ennuyeuse, vu que c'était que des fonctionnaires qui écrivent des règles. Mais l'Europe, c'est bien plus que ça. C'est un projet commun, c'est un récit. C'est des étudiants qui, tous les ans, partent à l'étranger, dans d'autres pays, qui découvrent d'autres cultures. C'est une union de 27 pays. C'est quand même pas simple quand on y pense. C'est plus de 75 ans de paix entre ces 27 pays. C'est donc juste un projet qui est absolument fou. Et on ne s'en rend pas compte au quotidien parce qu'effectivement, on pense à la grisaille de Bruxelles, on pense aux vieux bâtiments avec des fonctionnaires gris dedans qui vont écrire des textes, etc. Mais quand on y réfléchit un peu, le projet européen est quelque chose d'absolument fou. Et il y a effectivement ces personnes qui s'en sont rendues compte et qui descendent dans la rue avec le drapeau européen. Et souvent, d'ailleurs, les personnes qui s'en rendent le plus compte, c'est les gens qui vivent en dehors de l'Europe, par exemple en Géorgie, où il y avait cette magnifique image, une manifestation avec une personne qui tenait le drapeau européen, face à un jet d'eau de policiers.
Exactement. Ce sont les autres que les Européens qui défendent l'Europe. Et là, il serait temps que les Européens défendent l'Europe pour la souveraineté, pour notre puissance et pour notre avenir commun. Voilà, notre survie, notre avenir.
Et c'est une très belle conclusion pour cette cinquième émission d'Europe, Union et Désunion. Nous espérons que l'écoute a été agréable et que l'Union européenne ainsi racontée devient tout à coup plus intéressante. Nous vous souhaitons une année pleine de bonheur, pleine de paix et surtout pleine d'Europe. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à partager celle-ci sur les réseaux sociaux ou à vos proches. Et surtout, soyez européens.